Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Blaise Ndali Kambala.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette grande édition du journal parlé. D'abord, le sommaire. Plusieurs assemblées provinciales ont organisé en fin de la semaine dernière les élections des membres de leur bureau définitif. C'est le cas de celles de l'Ituri, du Sud-Kivu et du Tanganyika. Les autres, dont Kinshasa, attendent encore la validation de leur règlement intérieur par la Cour constitutionnelle. Au Nord-Kivu, 7 déplacés sont décédés en moins d'un mois dans la commune rurale de Kaina. La société civile Force Vive de la région rapporte que la famine et le manque de soins de santé primaire sont à la base de ces décès. Elle lance alors un SOS. Encore une fois, bonjour. Commençons par la poursuite d'installation des institutions de la République. Plusieurs assemblées provinciales ont organisé en fin de la semaine dernière les élections des membres de leur bureau définitif. C'est le cas de celle de l'Ituri, du Sud-Kivu et du Tanganyika. Les autres, dont Kinshasa, attendent encore la validation de leur règlement intérieur par la Cour constitutionnelle. L'installation des bureaux définitifs va ainsi ouvrir aux élections des sénateurs et gouverneurs des provinces prévues pour le 29 avril prochain. Michel Kifindangoy pour les détails.
Alors que les candidats sénateurs et gouverneurs sont en plein contentieux des candidatures au niveau de la Cour constitutionnelle, dans les assemblées provinciales, l'enjeu tourne autour de l'installation des bureaux définitifs. Si la majorité de ces assemblées, comme celle de Kinshasa, Congo Central et Sankuru, sont encore en train d'attendre l'avis favorable de la Cour constitutionnelle sur la conformité de leur règlement intérieur à la Constitution, d'autres ont déjà des bureaux définitifs au grand complet. C'est le cas de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, présidée désormais par Cyril Kimpou Awel de l'AFDC de Modeste Bahati, élu jeudi. En Ituri, Samuel Adjarouva du MLC de Jean-Pierre Bemba est élu le même jeudi président du bureau définitif de l'Assemblée provinciale. Dans la Tchopo, le nouveau président du bureau définitif de l'Assemblée provinciale, Mathéus Kangalondimo, est de la REP de Guy Luando. Toutes les autres assemblées provinciales devraient installer leur bureau définitif avant le 22 avril prochain, date prévue pour les élections des sénateurs.
Parlons de la formation prochaine du gouvernement par le président de la République qui a reçu ce week-end les conclusions de l'informateur Augustin Kabuya. L'UDPS Tshisekedi réclame la primature ou la présidence de l'Assemblée nationale. Les militants de ces partis se sont ainsi exprimés samedi ici à Kinshasa au cours de la matinée politique tenue par Augustin Kabuya, secrétaire général de ce parti. Paul Katundwa, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, explique cette prise de position par le fait que son parti est majoritaire à l'Assemblée nationale. Paul Katundwa le dit à Paul Matendo Mayamba.
Cette fois-ci, nous disons que l'UDPS devra avoir la primature. Pourquoi? Parce que nous avons, depuis que l'UDPS a accédé au pouvoir, nous avons eu 3 premiers ministres. Les 2 premiers, tous étaient du FCC. Tshibala FCC, Ilunkamba FCC. Et les derniers qui venaient de démissionner, Sama Lukonde de l'Union Sacrée. Ça ne nous a pas gênés. Mais cette fois-ci, si l'UDPS peut briguer la primature, parce que nous avons besoin que l'UDPS, absolument, parce que nous sommes sortis, d'abord, en tant que le plus grand regroupement du parti, et quoi, de l'Assemblée nationale, nous avons le droit de prendre la primature. Bon, mais dire que le secrétaire général Augustin Kabuya devra briguer la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, moi je dis non. S'il faudrait que le secrétaire général occupe une fonction au sein de l'Assemblée, cette fonction c'est celle du président de l'Assemblée nationale. Donc il faut que les alliés soient clairs avec nous. Si nous pouvons concéder la primature à nos alliés, en tout cas, le secrétaire général de l'UDPS honorable Augustin Kabuya devra briguer la chambre du Parlement, la chambre basse du Parlement, la représentation du peuple.
Par ailleurs, les conditions socio-professionnelles des enseignants et de tous les agents publics de l'État laissent à désirer. C'est ce qu'a déploré ce week-end la synergie des syndicats des enseignants de la RDC. Le porte-parole de cette structure a exprimé son indignation lors d'un point de presse tenu à Kinshasa. Jean Bosco Pouna a ainsi recommandé au prochain gouvernement de la République d'élaborer une politique salariale au profit de tous les agents et fonctionnaires de l'État, et y compris des professionnels de la CRE.
Il a en outre estimé que cette politique va sans doute rendre efficientes les réformes ou les différentes réformes enclenchées à travers le pays. Jean Bosco Pouna est au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
La synergie des syndicats des enseignants de la RDC rappelle au président de la République que les enseignants de la République attendent voir la matérialisation de son vœu, je cite, de ne pas revenir sur les erreurs du passé et donc en mettant en place une politique salariale digne pour rendre efficientes les différentes réformes enclenchées. Cette politique salariale tiendra compte d'un barème salarial digne offrant des avantages sociaux pour tous, conformément à l'article 58 de la Constitution qui revient sur la redistribution équitable du revenu national. L'élaboration d'une politique salariale permettra au gouvernement de la République de faire face à la réforme sur la gratuité de l'enseignement qu'il compte prolonger au secondaire, d'indemniser les enseignants retraités injustement, de rationaliser l'organisation de l'examen d'État en prenant correctement en charge les inspecteurs et intervenants.
Entre-temps, sur les lignes de front, l'on a appris ce week-end un mouvement de renforcement des troupes rebelles dans le territoire de Masisi. Un renfort en hommes et en matériel est observé dans la cité de Kichanga, pendant que dans le territoire de Rutshuru, on ne sait pas toujours avec exactitude qui contrôle les postes de la Rwindi après les combats ce week-end entre l'armée et les rebelles. Gabriel Wamenia pour le reportage.
Des sources locales confirment l'arrivée samedi dans la soirée des renforts rebelles en hommes et en matériel dans la cité de Kichanga. Ces sources parlent des véhicules lourdement chargés ainsi que d'engins blindés qui seraient entrés nuitamment dans la cité sous la surveillance des combattants du M23. Des longues colonnes humaines transportant des caisses de munitions et des armes d'empoint se seraient dirigées les unes sur l'axe Kichanga-Kilolirwe alors que d'autres auraient pris la direction de Mushaki sur l'axe Sake-Masisi-Centre pour consolider leur position sur les crêtes des collines Ndumba, non loin de la cité de Chacha, à une dizaine de kilomètres sur l'axe Sake-Bweremana en groupement Mufuni-Shanga. Cet impressionnant déploiement des rebelles dans les différents villages inquiète de plus en plus les acteurs locaux. Ces derniers redoutent des opérations généralisées qui viseraient l'occupation totale du territoire de Masisi. On fait savoir sous couvert d'anonymat certaines notabilités de Masisi. Par ailleurs, dans les territoires de Rutshuru, il est pour l'instant difficile de savoir qui contrôle les postes de la Rwindi après les affrontements de samedi entre l'armée et les rebelles sur l'axe Rwindi-Kiwanja. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Nous le disons en titre, au nord Kivu, 7 déplacés sont décédés en moins d'un mois dans la commune rurale de Kaina, c'est dans la partie sud du territoire de Lubero. La société civile Force Vive de la région rapporte que la famine et le manque de soins de santé primaire sont à la base de ces décès. Elle lance ainsi un SOS. Sadiki Aboubakar pour les détails.
Parmi ces victimes, on trouve deux enfants. Le dernier cas de décès remonte à mercredi. La société civile de Kaina rapporte que ces personnes sont décédées à cause de la sous-alimentation et du manque des prises en charge médicales. Ces déplacés, estimés à environ 15 000 ménages, sont éparpillés entre Kaina, Kirumba, Miriki, Miobwe, Luofu, Kasehe, Kamandi Lac et Kamandi Jite. Amani Kinda, président de la société civile, affirme que moins de la moitié de ces personnes ont bénéficié de l'assistance du gouvernement, une assistance jugée par ailleurs insignifiante, ajoute-t-il. Ces déplacés, venus majoritairement de Kibrizi dans le territoire de Rutshuru, sont hébergés dans des familles d'accueil et d'autres occupent des églises. Les familles d'accueil sont également confrontées aux problèmes d'accès à leurs champs. Ceux-ci se trouvent en effet dans une zone occupée par des groupes armés, ajoute la même source. Ils exigent de l'argent aux propriétaires des champs avant d'y accéder, déplore la société civile. Nous n'avons pas réussi à avoir l'administrateur du territoire de Lubero pour sa réaction. Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Au sud Kivu voisin, plus de 282 000 personnes déplacées de Masisi au nord Kivu sont arrivées à Minova dans le territoire de Kalehe. Ces hommes, femmes et enfants, fuyant les combats entre les FARDC et les terroristes de M23-RDF, vivent dans des conditions déplorables à Minova. Leur présence prolongée perturbe ainsi le déroulement des enseignements dans les salles de classe qui les hébergent. La société civile de Minova plaide pour une réponse urgente en faveur de ces personnes. Emmanuel Elamejiwa Kabedi.
C'est depuis le mois de février dernier que les déplacés de Massy et au Nord Kivu affluent dans la cité de Minova et dans d'autres localités environnantes du territoire de Calais. Ils sont logés dans des familles d'accueil, d'autres occupent les salles de classe, les églises et les structures de santé ou encore certains immeubles en chantier. Avec cette situation, les établissements scolaires de Minova fonctionnent difficilement. Les déplacés sont obligés de libérer provisoirement les salles de classe et permettre le déroulement des cours pendant quelques heures de la journée. Pour survivre, certains travaillent pour les comptes de ménage de Minova afin de recevoir un revenu d'environ 2000 francs congolais par jour. L'accès à l'eau potable est même difficile. La Croix-Rouge du Nord Kivu a tout de même réussi à distribuer des couvertures et autres ustensiles de cuisine. Certains humanitaires présents dans la zone offrent des soins médicaux gratuitement aux déplacés malades. La société civile de Minova plaide pour une réponse urgente en faveur de ces personnes, mais surtout favoriser les conditions sécuritaires pour leur retour dans leur milieu respectif. Emmanuel Elamejiwa Kabedi, Bukavu Radio Okapi.
On revient ici à Kinshasa. Le bourgmestre de la commune de Lingwala tire la sonnette d'alarme sur les manques d'électricité dans l'enceinte même de la maison communale et ses environs depuis plusieurs mois maintenant. Hubert Mouchiga affirme que cette situation peut gripper la machine administrative si l'on y prend garde. Il déplore aussi la montée de l'insécurité créée par des individus sans logis qui viennent passer des nuits dans les marchés de Lufungula et de Kalembelembe malgré de nombreuses gardes de la police. Le bourgmestre de Lingwala, Hubert Mouchiga, est au micro de Pascal Massirika.
Quand on voit Lufungula, c'est comme un village. Il y a plus de 250 shops que nous, la commune, ne contrôlons même pas. Il y a des petits dépôts par-ci, par-là. Et ces dépôts-là, ils ne payent même pas de taxes. C'est un manque à gagner à la commune. Il y a même les gens qui y passent nuit. Et cela, ça constitue de l'insécurité à la population. Nous sommes en train de secouer un peu, voir si la hiérarchie peut reconstruire ces marchés. Parce que ça ne mérite pas cet état là-bas. La commune de Lingwala, c'est l'entrée et la sortie de la commune de la Gombe. Si vous y allez aujourd'hui, c'est comme un village. Donc, en commençant par se démarcher, peut-être nous pouvons essayer de souffler un peu. Il y a aussi ces opérateurs économiques, au lieu de venir payer les taxes de l'État, ils s'arrangent avec les agents, et tout cela, c'est un manque à gagner à la commune. Mais quand vous essayez de faire un tour dans des magasins, des boutiques, voilà, nous avons payé au service de l'économie, nous avons payé par-ci, par-là, mais avec des fausses notes de perception. Et cela, ça nous pénalise.
Parlons de la clôture du mois dédié aux droits des femmes. C'était hier le 31 mars. Dans le territoire de Walikale, le chef du secteur de Wanyanga appelle les femmes de son entité à l'auto-prise en charge, tout en invitant également les jeunes filles à valoriser leurs études pour leur avenir. Descartes Bamwisho a lancé cet appel à l'occasion de la clôture du mois de la femme dans son secteur. Ses chefs administratifs invitent les jeunes filles à suivre l'exemple des femmes cadres de Walikale qui occupent aujourd'hui des postes de responsabilité au sein des institutions de la République. On écoute Descartes Bamwisho dans cet extrait choisi par Denise Lukesso.
Si elles aiment les études, refusent de se marier tôt et aiment la parole de Dieu, ce n'est pas n'importe quel homme qui peut l'approcher. Quand tu parles bien ton français, celui qui va t'approcher sera celui qui aura réfléchi mille fois avant de te parler. Et il ne va pas te raconter des bêtises. Par le passé, on croyait que la place de la femme, c'est la cuisine seulement. Non. Regardez aujourd'hui nos mamans de Walikale qui nous défendent. Maman Élisée, elle gère les hommes. Maman Machozi, une femme de Walikale, questeur de l'Assemblée nationale. Maman Sabine, Maman Jeanne, toutes étaient des députées. Et donc, les mamans qui s'efforcent dans leurs études ici à Walikale ont beaucoup de chances et exceptionnelles. Cela veut dire, ne vous découragez pas.
Cela veut dire, Moussi fait mourir.
Clôture de la mois de la femme toujours, femmes et sport, égalité ou parité en RDC, c'est le thème de la première édition du forum des femmes sport organisé vendredi à Lubumbashi par la structure dénommée Planète Studio à l'occasion de la clôture du mois dédié aux droits des femmes. Plusieurs femmes y ont pris part, notamment les athlètes, les dirigeantes, les journalistes et autres. À cette occasion, elles ont déploré les discriminations dont elles sont victimes et ont plaidé pour un monde sportif égalitaire et parité. paritaire tout en proposant des pistes de solutions. D'autres détails avec Mimi Fay, journaliste sportive et initiatrice de ce forum. Elle est au micro de Jean Ganduka Bongo.
Nous avons constaté que la parité côté sport pour les hommes et pour les femmes n'est pas aussi effective, que ce soit sur le plan médiatique, c'est le sport masculin qui est plus évoqué que les sports de dames, que ce soit par les gouvernements, il y a plus de regard du côté du sport masculin que chez les dames. Et nous nous sommes dit qu'il était important d'organiser un forum qui a réuni les pratiquantes dans les disciplines sportives de toutes sortes, mais aussi les dirigeantes et pourquoi pas les journalistes sportives. Nous avons évoqué plusieurs sujets importants sur la femme qui pratique le sport et la femme qui est dans le milieu sportif, et plusieurs thèmes ont été abordés dans ce sens, cette parité qui n'existait pas tellement ou encore cette égalité et d'où il faudra la rechercher à travers la politique sportive du sport féminin dans notre pays et dans différentes fédérations. Question d'amener aussi les écoles et d'autres jeunes qui grandissent à pouvoir suivre le chemin du sport dans la pratique côté féminin, et ainsi on pourra trouver avec cette bonne politique cette égalité ou cette parité un jour dans notre pays.
Actualité internationale.
Israël a annoncé avoir tué ce dimanche 31 mars un commandant militaire du Hezbollah dans une frappe de drone dans le sud du Liban. Une élimination qui intervient après celle d'un autre haut cadre du mouvement chiite allié à l'Iran. Municipalité en Turquie, l'opposition remporte une victoire historique. Alors que le président Recep Tayyip Erdogan espérait avoir son parti remporter le scrutin à Istanbul et à Ankara. Mais les premiers résultats ont vite laissé entrevoir un raz-de-marée de l'opposition au-delà même des deux plus grandes villes turques. Fin de cette édition du journal Parler, coordonnée et supervisée par Jacques-Yves Molima, mise en onde par Alain Goy. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la radio de la paix.